C'est un très grand honneur pour nous, la librairie Mola, et aussi pour moi-même, de recevoir aujourd'hui Hélène Tixou, qui est un écrivain de première grandeur, peut-être nobélisable, si les titres valent quelque chose. En tout cas, c'est un écrivain très important que nous recevons ce soir. Hélène Tixou connaît un peu Bordeaux, et chaque année, elle consacre 2 mois d'été dans sa maison d'écriture à Arcachon. Donc, elle connaît un peu la région. Chaque année, Hélène nous donne un livre qui constitue une œuvre qui a quelque chose d'océanique, mais qui est en même temps toujours un livre extrêmement accessible, léger et même amusant. Cette année-ci, Hélène Tixou nous propose un livre qui s'intitule 1938, Nuit. Alors bien sûr, ce livre peut être à la fois lu pour lui-même, indépendamment de ce qu'il a précédé, mais on peut aussi le rattacher à l'ensemble de l'œuvre qui précède, parce qu'Hélène Tixou, dans ce livre-ci en particulier, s'intéresse une fois encore, une fois à nouveau, à des éléments personnels de sa famille, notamment à l'histoire de sa grand-mère maternelle et également à la famille de cette grand-mère, la famille Jonas, apparentée au philosophe Hans Jonas d'ailleurs, dont un certain nombre a péri à Auschwitz, Sobibor ou Theresienstadt. Alors, ma première question est toute simple. Pourquoi ce titre, 1938, Nuit ?
C'est un titre qui ne cache pas son jeu. Il m'arrive d'avoir des titres plus rusés que ça. Mais 1938, c'est une date que nous pouvons connaître ou pas, parce que nous ne sommes pas obligés d'être des historiens. Mais pour moi, évidemment, chacun ses références, pour moi, 1938, c'est la date où ça marque une nuit parmi beaucoup d'autres, mais une nuit absolument spectaculaire qu'on appelle en allemand la Kristallnacht. Je crois d'ailleurs qu'on lui laisse son nom aussi en français. J'ai vu que parfois on appelait ça la nuit des pogroms ou quelque chose comme ça. Mais dans l'espace nazi et dans l'histoire du nazisme, c'est la nuit du 9 au 10 novembre 1938 où Heydrich, un des sbires de Hitler, a fait un coup extraordinairement théâtral et tout à fait bouleversant à l'intérieur d'une politique qui était déjà très ancienne, parce que quand les nazis sont arrivés au pouvoir, c'était en 33, mais déjà avant ils étaient là, et donc en 38, ça faisait 5 ans qu'ils passaient à l'acte de manière spectaculaire. Mais là, Heydrich a décidé, c'était un petit moment comme ça tournant dans l'histoire de l'anéantissement des juifs, que cette fois-ci on allait marquer un grand coup. Et voilà. Et alors, ce coup, c'était que cette nuit-là, on allait mettre le feu à toutes les synagogues du Reich, toutes. Et ça, c'est le plus spectaculaire. Et puis, tout autour, on allait casser les vitres, donc les vitrines des magasins, les vitres des fenêtres, etc., etc., de tous les juifs en Allemagne. Ce qui a été fait sur un ordre qui a été envoyé la veille à 18h et le lendemain. Et avec une date d'exécution. Voilà, une date et une heure. À 2h du matin, entre le 9 et le 10 novembre, hop, d'un seul coup, partout. Bon, moi, je trouve ça extraordinaire. Et ça a été fait. C'est-à-dire que, dans cette nuit-là, à 2h du matin, toutes les synagogues ont flambé. Alors, je ne peux pas m'empêcher de me représenter la chose. Et puis, Alors, il y a eu ça, donc cet épisode, qui a été en même temps accompagné de l'arrestation de seulement, si je peux dire, 30 000 hommes juifs. C'était juste avant qu'on commence à arrêter systématiquement tous les juifs pour les amener en camp de concentration. Donc, 30 000 qui ont été déportés instantanément. Voilà. Dont certains, alors, du côté de ma famille, qui est une famille d'Osnabrück, qui est une ville du Hanovre, certains de nos proches qui ont été déportés à Buchenwald. Quand j'étais petite, je connaissais quelqu'un qui me disait qu'il avait été en camp de concentration, qu'il en était sorti. Alors j'avais beaucoup de mal à comprendre comment on pouvait sortir d'un camp de concentration. En fait, ça pouvait exister dans certaines circonstances, à certains moments. C'était le cas d'un de nos amis qui a été arrêté donc, pendant la Kristallnacht, déporté à Buchenwald, et qui a eu la chance inouïe de recevoir un visa qui était demandé depuis des années et des années, bon, là, voilà, et qui donc l'a fait sortir. C'était un survivant. Bon, mais pour moi, ça, je vous raconte le contexte historique. Mais si moi, je me suis intéressée à ça, c'est qu'à ce moment-là, ma grand-mère était là. Et ma grand-mère, qui était une personne d'une famille, qui est la famille Jonas, la famille Jonas, qui a fini à 50% dans les camps de concentration. Et donc, en novembre 38, elle était là. Je me suis toujours dit, mais pourquoi elle était là? Ma mère et ma tante, les deux filles...
Est arrivée à la fin du mois.
Elle est arrivée à la fin 38, oui, tout de suite après la Kristallnacht, elle est partie. Elle est arrivée dans ma maison qui était à Oran, en Algérie, où ma mère s'était donc mariée avec un jeune médecin qui exerçait en Algérie. Et voilà, donc l'Allemagne qui sortait comme ça de la Kristallnacht est arrivée chez nous en 38, fin 38. Et bien sûr, à ce moment-là, je ne me suis pas particulièrement fixée ni sur la date, même si c'était le jour de la naissance de mon frère. Ça, c'était une chose que je n'ai comprise qu'après coup. Mais plus tard, je me suis dit, mais que faisait Omi, comme on disait, que faisait Omi à Osnabrück à ce moment-là? Elle aurait pu sortir. Elle a été sollicitée par ma mère très souvent. Ma mère qui était partie, qui lui disait, mais il faut que tu partes. Et c'est ça, en fait, qui m'a intéressée. C'est-à-dire, ce qui m'a retenue et qui a commencé à m'émouvoir et à me tourmenter à partir du moment, d'ailleurs, où je suis allée moi-même à Osnabrück, ce qui a été très tardif dans mon existence. À partir du moment où je suis allée dans cette ville dont je connaissais toute l'histoire et où je me suis rendu compte que la maison de ma famille était une grande maison au milieu de la ville, en face, comme ça, un petit peu plus loin, si vous voulez, de l'autre côté, là, à 50 mètres, en face, il y avait le principal nazi d'Osnabrück. Quand j'ai compris que c'était des gens qui étaient face à face, nez à nez, qui se croisaient tout le temps, voilà, j'ai commencé à me demander... Comment expliquer cet attardement? Qu'est-ce qui se passe dans quelqu'un? Voilà, une personne comme vous et moi, qu'est-ce qui fait elle est là, elle arrive jusqu'au bord de l'abîme? Bon. Ce sont des questions qu'on se pose toujours, hein, mais elles deviennent abstraites si on n'arrive pas enfin, pour moi en tout cas. Si elles ne sont pas incarnées, si elles ne sont pas portées par des personnes que nous rencontrons. Voilà. Donc j'avais envie de demander des comptes à ma grand-mère, dont une part de la fratrie, qui était extrêmement nombreuse, est restée à Osnabrück, alors qu'elle est partie donc fin 38, et ceux qui sont restés, ils ont été déportés, et comme on dit en allemand, ermordert, c'est-à-dire assassinés. Voilà. Et ça s'est levé en moi comme mystère. Je me suis dit, il faut que j'arrive à aller le plus loin possible dans le mystère des cœurs. Je ne peux pas aller jusqu'au bout. Je peux suivre des pistes, je peux essayer de m'approcher très concrètement, c'est extrêmement concret, de ces histoires effrayantes. Sans pouvoir prendre le moindre parti, je suis... jusqu'à un moment où je peux plus suivre et où je me dis que j'aurais quand même dû lui demander, mais je pense qu'elle ne m'aurait pas répondu parce qu'elle ne devait pas le savoir elle-même.
Il y a un contraste important entre la personnalité de votre mère, Ève, ainsi d'ailleurs que de la personnalité de sa propre sœur, qui ont quitté l'Allemagne assez tôt, votre mère en 29, je crois, et sa sœur en 30 ou 31.
Tout de suite après.
Voilà. Mmh. Et donc, votre grand-mère, qui, elle, donc, est restée, ainsi qu'un grand nombre de ses frères et de ses sœurs. Donc, il y a aussi une affaire de personnalité. Votre mère a été très importante pour vous et elle est décédée à l'âge de 104 ans. Vous vous êtes beaucoup...
103 ans.
Dans, oui, dans sa 104e
année. 105, d'ailleurs.
Oui, bon. Et elle est... vous vous êtes occupé d'elle beaucoup et les conversations avec votre mère d'ailleurs occupent et elles sont merveilleuses pas mal de vos livres précédents. Ici, votre grand-mère c'est autre chose parce que elle était très discrète, silencieuse et elle parlait peu de tout ça et même quand vous étiez enfant, vous aviez un autre rapport avec elle que le rapport que vous aviez avec votre mère, par exemple. Donc, il y a un mystère de votre grand-mère. Hein, et alors, c'est à l'occasion, dans le livre, à l'occasion de la découverte d'un document qui était demeuré sur une étagère de la maison de votre mère, que vous êtes entré, en quelque sorte... la personne de votre grand-mère, pas l'intermédiaire de ce document, qui était un document rédigé par un ami de votre mère à Osnabrück, qui s'appelait Siegfried Katzmann, et qui a réussi, c'est lui, ce Siegfried Katzmann, qui a réussi à sortir de Buchenwald un mois après y être entré, grâce à un passeport. Grâce à un visa qu'il avait demandé précédemment, peut-être à Paris, à l'ambassade américaine, qu'il a obtenu et qui a réussi à gagner les États-Unis. Et en 1941 ou 42, il a rédigé un récit de, à la fois de la Kristallnacht à Osnabrück et de son séjour, du moins de son séjour à Osnabrück. Il ne parle pas de sa sortie d'ailleurs là, mais et c'est ce document qu'il a adressé à votre mère après l'avoir retrouvé à Osnabrück le jour de cette fameuse rencontre qui avait été organisée par des historiens d'Osnabrück. Et donc un an après, il a envoyé ce document à votre mère qui ne l'a pas lu, mais elle l'a laissé sur une étagère et vous l'avez découvert ce document et vous l'avez lu. Et c'est en lisant ce document que vous avez essayé, en quelque sorte, de vous mettre dans la peau de votre grand-mère et que vous avez eu accès un tout petit peu aux pensées qui pouvaient occuper l'esprit des gens d'Osnabrück. Mm-hmm. Alors donc, ce document, vous l'avez lu, donc, ce Bericht.
Je l'ai lu presque par hasard. D'abord, j'ai trouvé par hasard. C'était comme de vieux chiffons qui étaient abandonnés et qui étaient d'ailleurs qui refusaient toute approche. Parce que d'ailleurs, on ne devrait même pas raconter ça parce que ça pourrait être une fiction. Après tout, je vous raconte quelque chose, mais il ne faut pas me croire. Voilà. Alors, je pourrais vous dire, c'était un vieux torchon qui était à la poubelle. Voilà. Et qui était totalement illisible.
Parce que compact.
Compact, et bon, et, enfin, en allemand, je peux lire en allemand, mais qui ne demandait pas à être lu. Voilà. Et qui d'ailleurs était dans un tas de poussière. Et bon. Et puis j'ai commencé, j'ai dû jeter un coup d'œil et j'ai commencé à apercevoir des choses qui étaient... C'était une sorte de gigantesque nef de mystères superposés, accumulés. Je découvrais, par exemple, que un personnage de ma jeunesse avec mes enfants, que nous connaissions très bien, avait en lui-même une sorte de mystère. C'est-à-dire que de temps à autre, je l'avais entendu dire quand j'étais jeune. Je, Je l'avais entendu dire qu'il était sorti d'un camp de concentration. J'avais jamais rien compris. Parce que justement, je savais pas trop comment. Bon. Et puis.
Vous l'aviez rencontré alors ?
Ah oui, oui, oui. Mais c'est. C'était un médecin, c'est un médecin américain qui. Voilà, et qui ne nous a jamais évidemment parlé de quoi que ce soit, mais pourquoi il l'aurait fait ? Il n'y avait aucune raison. Je veux dire, pourquoi est-ce que dans les années 70 ou quelque chose comme ça, non, c'était plutôt fin des années 80, pourquoi il nous aurait parlé de ça ? Il aurait fallu que quelque chose en nous se mobilise. Il n'y avait aucune raison. Donc, non. On parlait de restaurants, comme le font les Américains. Voilà. On allait au restaurant, on parlait de restaurants. Et c'était un personnage pittoresque, intéressant. Bon. Et en fait, la première des choses qui s'est passée, c'est qu'il y avait un décalage absolument immense et tout à fait savoureux entre cet ami de ma mère, et qui était un vilain petit bonhomme, qui nous émouvait par sa laideur particulière. Et,
ultra moche, il est qualifié d'ultra moche.
Oui, ultra moche. Et la grande passion qu'il avait pour ma mère, qui trouvait qu'il était quand même un peu trop ultra moche. Voilà. Le fait que c'était à la fois quelqu'un de cultivé, tout ça, mais enfin, on ne s'est pas vraiment approché de lui. Et puis là, je commence à découvrir un personnage dont j'ignorais absolument tout et qui était un personnage extrêmement important dans une histoire terrifiante du malheur de ces habitants d'Osnabrück que moi j'avais toujours suivi à travers les archives, à travers les récits de ma mère, de ma grand-mère, de ma tante, etc. Et puis, donc je connaissais beaucoup de choses, mais lui, il savait absolument rien. Et ça, c'est une partie de ça. Puis, évidemment, ce qui a commencé à m'intéresser, comme d'habitude, parce qu'au fond, je suis assez archiviste dans l'âme, je me suis dit, mais comment ça se fait que ce rapport et il n'en a jamais fait mention, il n'a pas... Bon, et après tout, parce que je découvrais en fait une valeur immense à ce document, immense, et je me suis dit, c'est curieux qu'il n'ait pas pris, par exemple, une place ou affirmé quelque chose dans cette espèce de gigantesque scène où on rencontre... des survivants de divers camps de concentration et qui ont quelque chose à raconter. Lui, jamais. Et après, justement, j'ai commencé à me dire, j'aimerais savoir ce qui se passait dans le cœur de celui qui ne s'appelait plus Siegfried.
Oui, Fred.
Mais Fred. Fred. C'est-à-dire qu'il avait échangé son nom absolument allemand pour un nom absolument américain. Il aurait pu aussi s'appeler Tom, Bill, mais donc c'était Fred. Voilà. Et puis, je me suis dit, mais je peux comprendre qu'il n'est pas mort. Voilà, il n'est pas mort, il est sorti, il a commencé une vie américaine, il était parfaitement américain. Médecin aux États-Unis, orthopédiste, bon.
Dans l'Iowa, à Des Moines.
Oui. Des Moines. En plus, dans une localité, bon, enfin, typiquement américaine. Puis je me suis dit, mais je peux comprendre que comparer ce que peut penser un petit bonhomme comme ça, comparé à des malheurs plus grands encore, des martyrs, des supplices, ou des choses absolument spectaculaires, il a dû se dire, moi je suis un petit bonhomme d'Osnabrück à qui il est arrivé quelque chose. Bon, je vais pas me décorer avec ça, je vais pas me battre pour ça. Et donc il a fait quelque chose qui restait complètement enfoui, perdu dans une sorte d'indifférence générale. Et là-dessus, il y a eu un épisode que je raconte là, alors en l'honneur de l'histoire de l'Allemagne, qui est un pays qui est très traversé par justement son rapport de mémoire à l'humanité, et qui a développé ce qu'on appelle en Allemagne Erinnerungskultur, la culture de la remémoration, qui est quelque chose qui est institutionnel. C'est-à-dire que les Allemands sont adonnés à cette culture d'une manière... Quand je dis que c'est institutionnel, c'est que, par exemple, les enfants dans les écoles, on leur apprend ça. y a des comportements sociaux qui sont développés dans la petite ville de Sainte-Brue, qui n'est pas si petite maintenant, mais enfin bon, où il y a des traces partout, comme il y en a
même partout.
Il y a des pavés, mais c'est assez récent. Hein. Ce sont des pavés qui s'appellent les Stolpersteine. Les Stolpersteine, ça veut dire les pierres sur lesquelles on trébuche. En fait, ce sont des pavés en laiton qui ont la taille d'un pavé, qui sont incrustés dans les trottoirs, devant les maisons où habitaient des Juifs, pas seulement des Juifs, mais c'est principalement, bien sûr, c'est 90% de Juifs, mais il y a aussi des homosexuels, quelques communistes, et il y a aussi, mais alors ils n'avaient pas de maison, les Tziganes. Voilà. Mais donc, il y a partout des traces de mémoire, et ça fait partie de la culture allemande actuelle, ce qui suscite toute espèce de réaction. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des réactions qui sont absolument positives, des réactions très négatives, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « on en a marre, on ne veut pas en entendre parler ». Puis si vous en voyez dans les rues des grandes villes allemandes, les gens marchent dessus, etc. Enfin bon, il y a vraiment de tout. Bon, mais c'est très intéressant. Puis c'est intéressant aussi parce que c'est le contraire de la pratique française. Là, on a pris en charge l'histoire et on en tire constamment des leçons et une politique. Toute la politique allemande est décidée par ça. Et c'est le contraire de l'attitude française. Bon. Mais donc, là, je vois l'exemple de cette ville d'Osnabrück, qui est une ville qui m'a toujours intéressée parce que elle a été historiquement le lieu où a été signé le traité de Westphalie en 1648. Mais le traité de Westphalie, c'est fondateur de l'Europe. C'est la fin de la guerre de 30 ans. Et on a signé dans deux villes, Münster et Osnabrück, qui étaient à 50 km l'une de l'autre, pour que les deux parties qui s'étaient entretuées pendant 30 ans avec des millions de morts, et qui étaient les catholiques et les protestants, soient séparés par 50 km. Donc ça a pris 5 ans pour signer ce traité. On naviguait comme ça entre les deux villes. Et Osnabrück est porteuse, donc elle s'appelle maintenant Ville de la Paix. C'est une ville de gauche, de la paix. Et elle porte ces traces que moi, je trouve évidemment totalement fascinantes. Et dans les années 80, tout d'un coup, les mairies se sont dit « Et si on faisait la recherche, s'il en reste sur Terre, des Juifs, est-ce qu'il en reste ? Est-ce qu'il reste des Juifs ?» Il n'y avait plus personne, bien sûr. Et puis, ils en ont trouvé. Ils ont fait un appel, comme ça, grâce aussi à Internet. Ça a commencé à circuler partout. Et ils ont trouvé entre 15 et 20 Juifs survivants d'Osnabrück, qui étaient dans des tas de pays.
Un peu dont votre mère.
Dont ma mère et sa sœur, et le petit Fred Katzmann, qui lui était aux États-Unis. Chacun dans son coin a réfléchi à cette invitation, en se disant, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas ? Bon, je me rappelle très bien des dialogues de ma mère et de ma tante, qui me faisaient évidemment rire. Alors, est-ce qu'il faut y aller, etc. Alors ma mère disait à ma tante, j'ai pas tellement envie, ma mère disait, on ira dans un bel hôtel, on ira dans un bon restaurant, parce que ça tentait ma tante. Voilà. Ils se sont retrouvés là, par petits groupes de 10. Ça a fait archive dans la ville. Ça a eu un énorme développement. Et c'est ce qui a fait que Fred Katzmann, le docteur Katzmann, a tout d'un coup fait cadeau à la ville d'Osnabrück de son petit rapport qui n'existe. Et donc en 85, hop, c'est allé aux archives d'Osnabrück. Et une petite partie en a été publiée. Ça servait, il faisait comme ça un travail. La ville d'Osnabrück a fait un travail d'archives gigantesque. C'est-à-dire en ramassant tout ce qu'il pouvait y avoir comme trace. C'est tout à fait admirable. Ce qu'ils font, c'est exemplaire. Voilà. Et moi, évidemment, je ne suis pas allée, même si je connaissais bien les archives d'Osnabrück, je ne suis pas allée du côté des archives que je connaissais, mais du côté des personnes qu'on n'a jamais entendues, quoi. Et là, tout d'un coup, on entendait une petite voix qui racontait toute son aventure. Et bon, qui me permettait d'entendre des inaudibles depuis toujours.
Mais votre mère, elle était très pragmatique et elle avait un mot, on ne remue pas le couteau dans la plaie.
C'est-à-dire, c'est pas une expression qu'elle employait quotidiennement, mais elle trouvait que c'était inutile, comme beaucoup de gens. Mais chez ma mère, c'était pas parce qu'il fallait effacer, parce que c'était quelqu'un qui disait tout.
Oui.
Et ce dont elle disposait me le racontait, donc je connaissais plein d'histoires absolument atroces des malheurs de ces familles, des histoires épouvantables d'un tragique indescriptible. Et mais l'histoire de la Kristallnacht, non, parce que c'est ma grand-mère qui aurait dû en parler, puisqu'elle y était. Voilà, elle n'a jamais fait.
Mais est-ce que votre grand-mère était à Osnabrück ou à Dresde à ce moment-là?
Non, elle était à Osnabrück au moment de la Kristallnacht. D'accord. Oui. Et bon, voilà.
Alors, de l'autre côté, votre livre est parcouru en permanence d'un extraordinaire humour. Ne serait-ce que du fait des personnalités qui sont présentes et qui sont en conversation, vous-même, votre fille, votre fils, et aussi d'ailleurs le souvenir de votre mère en particulier. Donc il y a une espèce de jubilation permanente qui est présente à travers votre écriture. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Je pense que... Alors, je devrais le dire à plusieurs niveaux. Pour moi, quand j'ai pris connaissance du fait que l'univers est tragique, ce que j'ai appris quand j'étais petite, doublement, c'est-à-dire à la fois parce que justement l'Allemagne nazie était chez moi, enfin voilà, qu'à Oran, ma grand-mère et ma mère fréquentaient des réfugiés. C'est-à-dire que moi, je voyais dans les jardins de public de la ville d'Oran, c'était plein de réfugiés allemands. Et voilà. Bon, mais alors, ma mère les repérait en les entendant parler allemand sur les bancs publics. Ça aboutissait chez nous, où ma grand-mère organisait des bridges, avec des gens qui étaient devenus des personnes très familières de mon existence, et qui, en plus, très souvent portaient aussi des traces des camps de concentration. Donc il y avait ça, mais il y avait aussi, en même temps, dans l'Algérie où j'étais née, la colonisation française, le pétainisme, Vichy, enfin, tout à la fois. Et donc, quand j'avais cette vision du monde, je me disais que le monde était quand même extrêmement tragique. Par chance, je me rendais compte que ce monde tragique était d'autant plus tragique où on pouvait accéder au tragique parce que de temps à autre, il y avait une note comme ça, comme une sorte de couleur vive, qui était quelque chose de comique. Et je me suis souvent dit que la tragédie moderne, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est-à-dire c'est une tragédie avec de temps à autre un éclat comme ça, qui fait qu'en pleine misère, on peut éclater de rire. Alors ça, c'était mon hypothèse quand j'étais enfant. Ensuite, je l'ai vérifié à diverses reprises, et assez tardivement, quand j'ai rencontré alors là, pas nécessairement des Juifs, mais des résistants qui ont été déportés. Parce que j'ai travaillé sur la résistance française à un certain moment pour le Théâtre du Soleil. Et la première question que je posais à ces gens-là, qui étaient tous des survivants de camps de concentration, dont Germaine Tillon, que j'ai bien connue, je leur disais, et tout le monde m'a dit, j'ai ri, tout le monde, en me racontant des scènes dans les camps de concentration, qui étaient des scènes où on cédait à quelque chose comme ça, du fond de l'horreur et de l'humanité, un moment où on ne peut pas s'empêcher d'éclater de rire. Et puis, en plus, alors après, si je change de niveau, je dirais que, vous savez, dans Shakespeare,
voilà.
Bon, les tragédies de Shakespeare, on ne peut pas trouver plus atroces que les tragédies de Shakespeare, quand ce sont des tragédies. Et puis, il y a cette chose, comme ça, cette ouverture dans le tragique, qui s'appelle « comic relief », voilà. C'est-à-dire, un moment où on se dit, je vais mourir si je ris pas. Voilà. Et alors, chez Shakespeare, c'est pratiqué par l'introduction partout d'un clown, de quelqu'un qui, au moment où vous êtes en train de pleurer, cause du rire. Il n'y a pas une tragédie atroce qui n'ait pas cette petite touche comme ça d'un éclat de rire. Dans Macbeth, dans Hamlet, enfin tout le temps, il y a
le roi Lear.
Dans le roi Lear, oui. Et voilà. Et en fait, c'est parce que la tragédie, c'est ça. Dans la tragédie, on pleure pas tout le temps. Parfois, on n'a pas la force même On n'a pas les larmes. Et parfois, on se dit, mais alors, je vais pleurer quand? Parce qu'on se dit, maintenant, il faut que je pleure. Et puis, voilà. Puis ça vient 15 jours après, ou au coin d'une rue. Voilà.
Alors, chez vous, il y a un travail de mémoire qui est lié aussi à l'écriture, bien sûr. Hein, au fond, écrire pour vous est très important. Écrire, ça aide à revivre, mais à revivre d'une manière ouverte et à travers des mots, à travers des métaphores qui vont ouvrir les situations, en quelque sorte. Hein. Et donc, l'écriture est très importante pour vous.
Enfin, de toute façon, je ne sais pas si je suis condamnée à l'écriture ou l'écriture à moi, je n'en sais rien, mais je sais que j'ai toujours dit, parce que tout simplement c'est un fait d'expérience, que d'abord je ne sais pas vivre sans écrire. J'ai considéré, c'est-à-dire que dès que j'ai commencé à vivre un petit peu, quand j'avais 10 ans, à la mort de mon père, j'ai eu besoin d'un secours. J'ai eu une telle douleur, un tel effroi. J'ai eu tellement peur, j'ai été tellement terrifiée que j'ai attrapé des bouts de papier. Ma vie dans l'écriture, ça a commencé comme ça. À ce moment-là, j'avais tout simplement besoin de bouts de papier et de me fabriquer des petits radeaux, des petits trucs comme ça de secours. Je savais pas du tout que ça deviendrait indissociable de ma respiration et de mon existence, et puis c'est devenu comme ça. Mais j'ai toujours pensé, et très longtemps j'ai pensé que c'était de ma part une faiblesse, un signe. Ne pas pouvoir vivre sans une prothèse, sans un secours. Et alors je regardais ma mère, qui était absolument mon contraire, et qui d'ailleurs me disait toujours, mais pourquoi tu écris? Mais qu'est-ce que tu fais toujours avec ce démon sur ton épaule et tous ces papiers qui nous encombrent la maison? Mais viens te promener avec moi au parc. Et c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour la santé, ce truc-là. Et ça sert à quoi? Voilà. C'était le discours de ma mère, dont je considérais qu'il y avait une sorte de justesse. Et alors je lui disais, mais toi, tu fais comment pour vivre sans écrire et sans rien, sans prothèse, sans rien? Elle me dit, mais je vis avec la vie. Et moi, je me disais, c'est tout à fait vrai. Mais je ne sais pas comment on fait. Bon, il y a plusieurs possibilités. Hein. On n'est pas obligé d'adopter une solution ou une autre. Et parce que ma mère était parfaitement consciente de la catastrophe de l'existence. Mmh. Mais elle prenait son sac à dos, elle mettait ses godasses et elle partait explorer l'univers. Elle me disait, vaut mieux voyager. Mais moi, je voyageais avec du papier.
Oui. En effet, donc, il y a toute cette œuvre avec vous et derrière vous qui est extraordinaire, hein, qui est d'une richesse extraordinaire, parce que les livres se répondent les uns aux autres, s'ouvrent les uns sur les autres, en formant une sorte de continent. Hein. Vous lire, c'est un plaisir infini. Alors maintenant, je voudrais en venir peut-être à une question de fond sur ce livre-ci en particulier, et sur un mot qui est prononcé à 4 ou 5 reprises dans le livre, et qui peut-être est la raison du comportement de votre grand-mère, c'est le mot « illusion ». Au fond, est-ce que ce n'est pas le concept d'illusion, tel que le propose Freud, par exemple, qui permet de se représenter la raison du comportement de votre grand-mère?
Oui, c'est un mot en tout cas qui fonctionne très bien, mais ça suffit pas. Un seul mot ne suffit pas, ni voilà. Mais enfin, c'est pas mal du tout. Mais je m'en suis convaincue, c'est vrai, avec Freud qui lui a été secoué et est venu à voir le monde comme il est, hideux avec des beautés, à l'occasion de la Première Guerre mondiale. Mmh. Et comme beaucoup de gens, à ce moment-là, il s'est réveillé en sursaut. Et donc, il a écrit beaucoup autour de cette expérience et de ce que ça signifiait, évidemment, philosophiquement et analytiquement, en ayant recours à l'illusion et en disant, par exemple, dans Malaise dans la civilisation, etc., tous ces textes, ils sont absolument passionnants. Et que moi, je lis comme les textes d'un homme qui se dit, mais bon, qui est le Montaigne de la psychanalyse. Voilà. Mais nous étions, voilà, un des traits humains, c'est ça, c'est vivre avec des illusions dont on ne sait évidemment pas que ce sont des illusions, puisqu'on les prend pour quelque chose de solide. Et puis à un moment, tout d'un coup, voilà, l'illusion a été tuée. Et c'est terrible. Maintenant, le cas de Freud, c'est quand même qu'on n'avait pas vécu jusqu'à la Première Guerre mondiale quelque chose d'aussi effrayant que la Première Guerre mondiale, et que les massacres que ça a entraîné. Dans la Deuxième Guerre mondiale, on avait la Première Guerre mondiale dans le dos, et en plus, ma grand-mère avait perdu son mari sur le front en tant que soldat allemand. Il est mort en tant que soldat allemand.
Sur le front russe.
Sur le front russe. Donc là, les illusions... Mais je pense que qu'effectivement, il y a, et on a certainement des milliers d'exemples, que beaucoup de gens qui... Parce que moi, j'ai fini dans mon livre, je me suis amusée à distinguer des sous-variétés de juifs. Alors, le juif qui... Le juif qui n'est jamais parti, le juif qui est parti... Alors, parce qu'en plus, il y a aussi ces tranches. Le juif qui... Alors, ma mère et ma tante sont partis. Ma mère est partie en 1929, elle avait 19 ans. Elle a vu arriver les nazis, elle est partie. Ensuite, elle est revenue chercher sa sœur, qui avait 3 ans de moins qu'elle. Elle lui a dit, écoute, la piscine est interdite aux juifs, alors pourquoi tu restes? Mais après, c'était pas seulement la piscine qui était interdite, parce qu'on a interdit... Ce qui était intéressant, c'était la succession aussi, hein. C'est-à-dire que si on a interdit la piscine, parce qu'on est arrivé à un moment où on interdisait de s'asseoir sur un banc public, bien sûr de prendre un moyen de transport, ensuite de sortir d'un quartier sans avoir un papier de la police pour passer d'un quartier à un autre quartier, sans compter le fait qu'il y a eu les lois qui interdisaient d'avoir des animaux domestiques.
De s'asseoir sur les bancs publics.
Ah oui. Et une série de lois tellement effrayantes et successives que je me suis dit, bon, alors les juifs qui sont partis au moment des piscines, les juifs qui sont partis au moment où on a fermé le club de tennis, les juifs qui sont partis au moment où on a fermé les écoles et où on a interdit ensuite, alors cela, ils ne pouvaient plus partir, on a interdit aux juifs de faire l'école à la maison, etc., à l'infini, quoi. Bon, après quoi, une fois qu'on avait tout interdit, et aussi bien sûr de faire des courses. Donc il y avait l'heure à laquelle les juifs étaient autorisés à vite faire leurs courses dans un marché qui était très précisément désigné. Voilà. Bon, à ce moment-là, ils ne sortaient plus parce qu'il y a eu aussi tout un roulement. Il y a eu le moment où, dans le programme nazi, l'idée c'était d'expulser tous les juifs. Ils ne sont pas partis assez vite, ces idiots. Donc ils sont restés jusqu'à la Kristallnacht. À ce moment-là, on les a terrorisés. Là, ils se sont dit, il faut partir. À ce moment-là, les nazis ont tout fermé. Et de toute façon, l'Europe a tout fermé. Et ils ne pouvaient plus partir. Bon. Donc, mais ça, comme il y a des étapes, alors, en fait, on se rend compte que les gens, quand ils partaient, les gens qui prenaient conscience, tout d'un coup, et se disaient, il faut partir. Il faut partir. Et donc, ils prenaient le train, alors, en 1930, 31, 32, 33. D'année en année, ils étaient différents. Et pour moi, donc, ce sont des catégories. Alors, le juif qui part en 1932 ou le juif qui part en 1935, ils ne se comprennent pas. Celui qui partait en 1932, il dit à celui de 35, mais pourquoi tu restes? Pourquoi t'es resté? Bon, ceux de 38 ne comprennent pas ceux qui restent. Voilà. Et encore, en 38, quelques-uns sont sortis, dont ma grand-mère, mais parce qu'elle avait un passeport français, ce qu'elle ne savait pas. Et pourquoi elle avait un passeport français? Parce que elle avait habité en Alsace, allemande, en tant qu'allemande. Mais à ce moment-là, tous les Alsaciens avaient la possibilité, avec le traité de Versailles, de demander le passeport français. Et ce dont ma grand-mère a profité, parce que le consul français à Dresden, après la Kristallnacht, lui a écrit en lui disant « Vous pouvez avoir un passeport français, puisque vous avez habité en Alsace. Bon, voilà, c'est comme ça qu'elle a pu sortir.
Et
comme
vous le savez, Freud... que ses deux filles sont nées aussi à Strasbourg.
Oui, oui, mais ça comptait pas. Ah, fallait. Oui, c'était pas à cause des filles, c'était vraiment à cause sa domiciliation en Allemagne
alsacienne.
Oui. Et Freud, il n'a pas pu sortir. Il a fallu que la princesse Bonaparte intervienne. Mmh. Voilà. Donc, bon, alors chaque fois, on se retourne et on se dit, ou on regarde les autres, et on ne se comprend plus. C'est-à-dire qu'il y a une série d'incompréhensions interminables et successives, comme justement le frère aîné de ma grand-mère qui reste...
Qui revient même.
Qui revient, oui, oui. Alors lui, c'est encore mieux, c'est une des histoires les plus tragiques. C'est oncle André et sa femme. Sa fille est partie en 1935 en Palestine. Voilà. Alors lui, il se dit, dans ces années-là, quand ça commence à devenir absolument impossible, je vais aller en Palestine. Bon, c'est un voyage hallucinant à faire à cette époque-là. Bon, il arrive en Palestine. Et sa fille lui dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici, vieux ? On ne peut pas t'utiliser. Il faut des jeunes ici. Va-t'en, rentre. Il est rentré. Il est rentré et il a été déporté et tué. Bon, donc des histoires comme ça, il y en a des milliers. On les raconte jamais, parce qu'il y a une loi. Il faut pas le dire. Il faut pas le dire. Ça fait pas, c'est pas bien pour les Juifs. Il faut pas dire qu'il y a eu ça. On s'est disputé dans les familles, etc. Il faut pas le dire. Bon. Et ça, c'est vrai qu'on finit par. Il y a tellement de il ne faut pas le dire qu'on finit par être recouvert par une sorte d'immense silence. Qui fait que rien n'est transmis, plus personne ne comprend. Les traditions, c'est ça, c'est que si vous circulez dans ces mondes-là, partout, on va vous dire, moi, on m'a jamais rien dit. On m'a jamais rien dit, mais j'ai jamais posé de questions non plus, et ceci à l'infini. Et ça produit des sortes d'abîmes de mes connaissances. Et, bon. Et voilà.
Cela dit, au titre, le mot nuit est au pluriel. Donc on peut considérer, bon, bien sûr, la Kristallnacht a eu lieu dans tout le Reich, comme vous l'avez dit, mais en même temps, on peut considérer que ce qui se passe au camp de Buchenwald est aussi une sorte de nuit.
Mais ce ne sont que des nuits. D'ailleurs, on pourrait lire le titre comme 1938 nuits. Oui. C'est pas mille et une nuits, c'est 1938 nuits.
Oui. Donc, il y a aussi un récit là de quelqu'un qui est passé par le camp de Buchenwald, bon, qui en est sorti un peu presque miraculeusement. Mais déjà, il y a une description de ce qui se passe au camp de Buchenwald.
C'est déjà des camps de concentration.
Oui, oui, tout à fait.
C'est pas la solution finale.
Voilà.
Mais il y a des morts en quantité, ce n'est que cruauté, atrocité. Et voilà. Et en même temps, je me suis dit que quand Siegfried est sorti, à mon avis, il n'a pas dû dire grand-chose. Mmh. Il est parti. Il n'avait pas de visa pour les États-Unis. À ce moment-là, il est allé en Suède. Et de la Suède, il a fini par gagner les États-Unis. Les gens faisaient le tour du monde pour arriver quelque part.
Son père était parti au Pérou, je crois.
Au Pérou. Voilà. Alors le père, lui, il avait un visa pour le Pérou. Mais on allait n'importe où, on est allé à Shanghai aussi, un peu partout, quoi.
Oui, et bon, effectivement, dans tout un tas de pays, il y a eu une émigration. Bon, un éclatement, un silence ensuite, effectivement. Fred Katzman a quand même éprouvé le besoin, à un certain moment, de raconter quand même.
Non, parce qu'il a écrit en arrivant. Et justement, oui. Parce qu'au début, quand j'ai lu cet objet extraordinaire, j'étais saisie par la présence de détails tels que je me disais, comment il a écrit ça quand ? Et oui. En reconstituant, en consultant les archives, en regardant aussi, je me suis rendu compte, parce que je ne pouvais même pas comprendre une chose pareille, qu'il l'a écrit tout de suite, dès qu'il est arrivé.
Ah, dès qu'il est arrivé aux États-Unis, d'accord.
Et puis il l'a foutu dans un tiroir.
Oui, oui. Mais quand même, il voulait le conserver à titre de document avant que la mémoire.
Il l'a pas communiqué, voilà.
Oui, oui, il n'a pas. D'accord. Mais n'empêche que ça existe, la preuve.
Il aurait pu, par exemple, quand il y a eu des archives en Israël, etc. Mais non. Voilà, c'est sorti au moment où il a rencontré ma mère à Osnabrück et
voilà.
Et où il s'est dit ah, mais quand même, ça fait partie aussi de l'histoire de ce petit territoire.
Tout à fait. tout à fait. Alors maintenant, ce livre, comment est-ce que vous le rattachez vous-même à vos livres précédents concernant Osnabrück, justement?
C'est, si je peux dire, ça fait partie justement des contes et légendes d'Osnabrück.
Alors, dans votre prière d'insérer, vous dites quelque part que vous avez consacré 4 livres à Osnabrück. Alors, il y a le premier qui s'appelle Osnabrück. Mmh. Le second, c'est...
C'était beaucoup plus tard, oui.
Oui. Le premier, il est paru à la fin des années 90, Osnabrück.
Je crois que c'était en 94. Ou
c'est ça. Comme ça. Et ensuite, donc, le suivant, c'est Gare d'Osnabrück, Jérusalem.
Mais c'était 20 ans plus tard.
Voilà. Et quels sont les deux autres?
Alors, il y a après Gare d'Osnabrück, c'est un diptyque, parce que tout de suite après, voilà. Il y a un livre qui s'appelle Correspondance avec le mur.
Voilà.
Mais qui se passe
à Jérusalem.
À Jérusalem.
Avec la cousine Marga.
Oui.
Et il y en a un autre encore qui concerne Osnabrück.
Alors donc, et ben c'est le quatrième. Là, ça fait
celui-là. C'est le quatrième. D'accord. Oui. Donc.
En fait, on traverse comme ça. Il y a des fantômes.
Voilà.
Oui.
Alors ça, ce sont les fantômes Jonas. Mais alors, je me pose une question. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas consacré de recherche à la famille Klein, à la famille, c'est-à-dire au père de votre mère.
C'est une très bonne question. Ça fait partie justement de la disparition de tout témoignage, parce que mon grand-père Michael Klein, qui donc a été tué en tant que soldat allemand et dont j'ai la croix de guerre, c'est moi qui l'ai récupéré finalement. Il est né
en Slovaquie actuelle.
En Slovaquie actuelle, mais la Slovaquie c'est maintenant. Parce
c'était,
que lui,
c'était l'Empire austro-hongrois.
Lui, il était quand j'étais petite, on savait jamais. On me disait il était autrichien ou hongrois, mais alors on comprenait pas du tout parce que tout simplement la frontière se promenait tout le temps. Et il est né entre Prague et Bratislava.
D'accord.
Dans une toute petite localité
qui est actuellement en République.
Qui est maintenant en Slovaquie.
En Slovaquie, d'accord. Près Slovaquie. De Bratislava alors.
Et dans une famille un peu à la façon, enfin c'était des familles germanophones, oui. Comme l'était justement par exemple la famille de Kafka, c'était des gens qui, oui. Tout en étant tchèques, enfin tchécoslovaques, étaient germanophones.
Attendez, la Tchécoslovaquie est née. En 1918.
Mais oui.
Bon, lui, il était né avant.
À ce moment-là, il était justement dans...
Il était hongrois, donc.
Dans l'Empire, oui, voilà. Mais il a quitté il a abandonné cette nationalité fluctuante parce que quand il est parti, c'était le 10e enfant d'une famille de 20 enfants, mon grand-père. Et qui existe. Alors là, par contre, la documentation, je l'ai.
Oui, vous l'avez donnée, d'ailleurs, dans le livre... avec des photos...
Elle existe.
Oui.
Eux, ils ont été à 70% dans les camps de concentration. Et cette famille-là a disparu. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas eu de... J'ai pas eu de rapport avec la famille Klein. Il y a une branche qui existe.
Il y en a qui sont partis en Afrique du Sud et en Amérique du Sud.
Ça, c'était avant. Ça, c'était au début du XXe siècle. Dans cette famille Klein.
Ah, d'accord.
Mais il y avait aussi des Jonas qui sont partis en Afrique du Sud. C'était des grands voyageurs, d'abord parce que comme les 20 enfants étaient là, c'est une famille qui a une histoire juive assez intéressante parce qu'au moment de sous François Joseph, il y a eu en Autriche-Hongrie une sorte d'assouplissement du traitement des juifs nationaux, et on les a autorisés, je crois que ça a duré 20 ans, à toucher à la terre. C'était interdit aux juifs, ils ne pouvaient pas toucher à la terre. Tout d'un coup, hop, on les autorise. Et cette famille-là, curieusement, a acheté de la terre et a ouvert une ferme gigantesque. Voilà. Mais alors, on ne pouvait pas nourrir 20 enfants sur la ferme. Donc, les premiers étaient supposés reprendre la ferme qui a ensuite été interdite. Et puis, au milieu, donc avec mon grand-père, c'était des commerçants. C'était comme ça.
C'est comme ça qu'il est parti à Strasbourg.
Alors, il est parti faire des affaires. Et en traversant l'Allemagne et les pays germanophones, Il a fait une halte une fois au Hanovre où
voilà.
Il est arrivé dans la famille des Jonas, qui eux étaient allemands depuis très très longtemps. Et on lui a dit, ah non, non, mais si vous voulez épouser Rosie, faut être allemand. Il était austro-hongrois. Donc il a pris la nationalité allemande. Et il est allé ouvrir une usine dont ma mère a toujours été très fière, qui est toujours là, qui est toujours à Strasbourg, Neudorf. Il a monté une usine et c'était... Et puis il a été tué.
Il avait un frère qui était industriel déjà.
Alors, non, c'était lui qui était le patron.
Ah bon, d'accord.
Et quand il a été tué, ou peut-être au moment de la guerre, je ne sais pas comment il a fait, en tout cas, il a fait venir deux de ses frères en Alsace pour prendre la relève pendant que lui s'est engagé. Il s'est engagé volontaire, il n'avait pas besoin, il n'était pas réquisitionné parce qu'il avait, il avait déjà 34 ans et deux filles, mais bon. Et donc, c'est un frère qui a pris la relève de cette usine avec un deuxième frère.
D'accord.
Donc, ceux-là, je les ai connus.
D'accord.
Et ils existent. Et ils ont existé à Strasbourg. Et les Klein ont existé. Maintenant, ils sont tous éteints.
Parce que vous avez des cousines aussi de ce côté-là.
Ils sont tous éteints maintenant.
D'accord. Et à Paris, vous en avez, il y en avait qui vivaient à Paris.
Qui sont passés par Paris, oui.
Oui.
Mais c'était des gens qui étaient basés en Alsace.
Oui, d'accord. Donc, il y a toute une diaspora aussi de familiale, en quelque sorte.
Qui est immense.
Oui.
Mais que je ne cherche pas à cultiver, parce que...
Oui.
Parce que je ne connais pas ces gens-là. Même si j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui passaient, et parce que ma mère finissait par être le point de ralliement. Elle était la seule francophone, la seule qui est atterrie en pays francophone. Tous les autres, il y a eu énormément de gens, par exemple, en Amérique latine,
oui,
dans tous les pays d'Amérique latine. Et puis les autres, donc en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, enfin partout, quoi. Et en Angleterre et en Irlande, mais ça, c'était banal.
Oui, votre tante, enfin, la sœur de votre mère, vivait à Manchester.
Et plusieurs autres, oui.
Oui. Alors, il semble que quand vous décidiez, au fond, sur le tas, quand vous êtes dans votre maison d'écriture, du livre que vous allez écrire et que, avant de vous y mettre, vous ne savez pas trop en quoi il va consister. Et c'est cette maison, en quelque sorte, qui vous inspire, ou en tout cas qui vous donne l'occasion de trouver... un sujet, en quelque sorte, une piste, un fil que vous allez déployer pendant ces deux mois d'écriture.
Oui, mais ça, c'est des questions vraiment de corps, si on peut dire.
Oui.
C'est physique. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de certaines conditions pour écrire. J'ai du mal à écrire dans un milieu urbain bruyant qui n'est que distraction. Parce que écrire, c'est partir, c'est passer de l'autre côté, dans un autre monde, dans d'autres mondes, c'est voyager. Et pour ça, je pense que la nature porte beaucoup plus puissamment. Et donc, je, par hasard, il se trouve que j'ai un lieu où soufflent les vents de manière très violente.
Ah voilà, ce sont les vents de l'Atlantique, finalement.
Absolument. Où l'océan hurle, je l'entends la nuit, d'ailleurs, de loin. On dirait des coups de canon. Et où il y a encore de la vie sauvage, des arbres, des animaux. J'ai besoin de ça. Peut-être parce que c'est hors monde. C'est complètement hors civilisation, si on peut dire. Mais ce sont des conditions. Voilà. On peut avoir besoin d'autres conditions. Je sais qu'à une époque très ancienne, où je commençais à écrire, j'avais besoin de musique. Et parfois, je me disais même, je triche, parce qu'il y en a qui boivent. Et moi, je buvais de la musique. À un moment, elle a commencé à me déranger, donc je l'ai éteinte. Mais c'est des questions vraiment, alors là, d'énergie, de rapport, de réception à tous les sens. Mais quand j'écris, c'est que tout simplement, c'est prêt. Mais je ne le sais pas. Je ne le sais pas, je ne suis pas avertie. J'attends que ça vienne. Je vais dans le nid à écriture et voilà.
Donc, ce qui va sortir à ce moment-là, s'est déjà travaillé tout ça en quelque sorte.
Oui, mais je ne sais pas.
D'accord. Et c'est là que vous allez le découvrir.
Ben, c'est-à-dire que pendant l'année, je prends des notes tout le temps pour moi-même, et puis parfois, et de manière qui m'amuse, ça m'amuse. Parfois, je me dis, tiens, oh là là, voilà le livre. Ça m'impressionne. Hein. Alors, quand même, je note dans mon cahier. Je me dis, c'est toi, là, je note. Voilà. Puis, finalement, je finis un cahier. Il y a une dizaine de livres potentiels qui sont passés sur la pointe des pieds, qui sont repartis. Voilà, c'est comme ça. C'était pas le livre, mais c'est des possibilités.
Voilà, donc, vous avez presque apporté j'allais dire de votre main, je ne sais pas, ou de votre pensée, vous avez apporté plusieurs livres.
Ah oui, mais une fois, même plusieurs fois, enfin plus d'une fois, il m'est arrivé qu'un livre m'arrive, tout écrit, complètement, tout à fait. Alors je me dis, c'est simple, j'ai plus qu'à le recopier alors. Un jour, j'avais appelé mon éditeur et je lui ai dit, écoute, cette nuit, il y a un livre qui est arrivé. Est-ce que tu publierais un livre de 4 pages? Il m'a dit, 4 pages? Je dis oui. On me dit, si tu veux, parce qu'après tout, c'est l'arrangé. Hein. C'est moins cher, un livre de 4 pages. Bon, finalement, ça a été plus que 4 pages. N'empêche que j'avais cette impression-là.
Oui, oui. Oui, ça c'est formidable d'un côté.
Ce sont des hallucinations, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est comme justement après Garde Snabruck qui m'a transporté absolument et qui m'a appris beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, parce que c'est pas moi qui écris le livre, hein, c'est le livre qui vient. Je me suis dit, oh, tout d'un coup, j'étais comme ça sur une colline et j'apercevais Jérusalem. Je me suis dit, oh là là, voilà l'autre qui arrive.
Vous l'avez écrit d'ailleurs, vous l'écrivez dans le livre.
Mais oui.
Hein, oui, vous l'écrivez.
Mais là, je me suis dit, non, celui-là, il est fini, donc l'autre...
C'est le prochain.
Ben, sauf que ça n'a pas été ça, c'était un autre, mais quand même.
Oui, autrement dit, vous n'êtes pas face au vertige à la page blanche.
Hein. Ah non, ça, je n'ai pas connu.
Et tant mieux, oui. Oui.
Bon, mais ça, je n'ai jamais su ce que c'était. Je sais qu'on en a souvent parlé. Et je me suis toujours dit, mais ça existe, une chose pareille. Je ne peux pas le croire. Je pense que les gens qui écrivent, pour qui c'est une question de vie ou de mort, ben, ils écrivent tout le temps.
Bien sûr. D'autant plus que vos livres, en quelque sorte, renvoient presque les uns aux autres et creusent, approfondissent ce qui a déjà été abordé parfois dans d'autres livres. Et c'est formidable, ça, de voir cette reprise et ce rebondissement que vous permet, justement, la maison d'écriture, en quelque sorte. Oui. C'est une richesse, ça.
Mais il faut, évidemment, que pour que ça puisse se cristalliser, si vous voulez, il faut aussi, enfin, pour moi, hein, il faut que ces objets magiques et totalement vivants, pour moi en tout cas, rencontrent, s'articulent comme ça, jonction avec une scène plus large qui est une scène historique plus large. J'ai besoin que ça, pour que ça prenne comme ça de la force et que ça concerne le monde.
Voilà.
Il faut que ça soit en dialogue secret avec l'actualité ou des événements qui concernent l'univers.
Donc l'histoire est très présente, en définitive. Il n'est pas simplement un récit familial. C'est une histoire qui est présente aussi et dans son tragique aussi.
Oui, absolument. Oui.
Non, mais c'est pour ça aussi. Alors, il me semble que un des buts de votre écriture est de l'ordre de la vérité. Et de la vérité dans l'intelligence du réel. Au fond, le réel vous intéresse et vous cherchez à comprendre sa vérité.
Oui, sauf que je ne la trouve pas, hein, parce que justement, on ne la trouve jamais. Mais par contre, on peut trouver énormément de possibilités de vérité. Ça pourrait être ça, ou ça, ou ça, ça et ça. C'est peut-être vrai ou pas vrai. En tout cas, évidemment, c'est ce qu'on vise, ce qu'on espère, et qui guide. Mais... Je finis toujours par, je commence par ne pas savoir, et à la fin, je ne sais pas, mais c'est une autre espèce de non-savoir.
Oui. Oui, mais il y a chez vous ce désir, je dirais, profondément honnête et risqué en même temps, hein, puisque c'est pas gratuit de votre part, c'est pas, ce n'est ni gratuit ni intéressé d'ailleurs.
Hein. Je dois vous dire que c'est souvent très désagréable.
Ah bon?
Ben, j'ai appris depuis toujours que si ça ne requiert pas un véritable combat contre soi-même, contre ses propres résistances, etc., c'est qu'il n'y a rien.
Voilà.
Et parce que sinon tout serait déjà connu, su. Non. En fait, c'est une quête, mais c'est une quête qui peut être très cruelle.
Voilà. C'est contre les résistances. Vous affrontez vos résistances, donc.
Oui, bien sûr. J'ai un ami que j'aime beaucoup, mais d'ailleurs, je dois dire, il n'est même pas le seul. Je réfléchissais ces derniers temps en me disant que les gens que j'ai le plus aimés m'ont dit des choses que j'ai trouvées, qui ont fait que je les ai particulièrement aimés. Par exemple, je suis lâche ou bien j'ai peur. Pas comme ça, hein, mais je ne peux pas... Devant telle situation, je suis saisie d'une telle peur. Voilà, et ce sont des gens qui ont peur d'avoir peur. Ou alors, comme je le dis autrement, qui ont le courage d'avoir peur. Je pense que c'est indispensable.
Et donc, c'est un des buts de votre écriture, d'affronter cela.
C'est pas le but, mais en tout cas, c'est la marque. C'est le signe que c'est par là. Voilà.
D'accord. D'accord. Qui est une résistance à affronter.
Ah ben oui. D'ailleurs, parce que pour vous dire les choses, par exemple, c'est que quand je vous dis que cette phrase que j'ai entendue toute ma vie, il faut pas le dire. Il faut pas le dire. Je me dis, mais c'est évidemment là qu'il faut aller alors. S'il faut pas le dire, c'est là qu'il faut le dire. Et il y a des risques, il y a des périls, il y a des sentiments pénibles.
Donc il faut du courage.
En tout cas, on a une récompense dans l'écriture, c'est que c'est par là que ça se passe. Au moins, il y a une indication.
Il y a une aventure.